Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la veille de la Yula de la Rabbanit, la femme du Rabbi de la Rabbanit Chaim Mishka. On va continuer le chapitre 7. Chapitre 7 du Char Ayichud Vaemuna qu'on a déjà commencé la semaine dernière. Et si on se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, on a continué, on a vu ensemble sur la différence qu'il y avait entre Shema Israël, Hashem Elokeinu ou Hashem Echad. Et Baruch Shem, les deux phrases qu'on dit tous les jours dans la prière, on a repris ce qu'on avait vu déjà dans le chapitre 6 sur la différence entre ce qu'il y a d'un côté, le nom de Dieu qui veut donner en abondance, et de l'autre côté, on a l'Elohim qui vient contracter, pas forcément voilé, mais pouvoir faire en sorte qu'on puisse la recevoir, et on puisse l'aborder, on puisse vivre avec, et on puisse mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Et comme on a l'habitude de dire, on voit que le cours de Tania qu'on a tous les mercredis est toujours en rapport avec la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha qui s'appelle paracha Yitro, bravo. Et on a vu dans le cours lundi soir, qu'on peut revoir sur le terrain.fr, sur la question qu'on a demandé, qu'est-ce qui a fait en sorte que le pape de l'époque a décidé de venir se convertir? Qu'est-ce qu'il a cherché? Comment ça se fait que Yitro a décidé de venir? Il était tellement enthousiasmé par l'idée en se disant, ah, peuple juif, la religion juive, une fois qu'ils se sont pris une claque par Amalek, ça vaut la peine de venir. Quel rapport? Et on a vu aussi par rapport à l'ouverture de la mer Rouge, comme Rashi nous dit, Mashmoa Shamaouba, qu'est-ce qu'il a entendu? Pourquoi il a décidé de venir se convertir? On a répondu qu'il a entendu les deux choses. La guerre d'Amalek et l'ouverture de la mer Rouge, on a répondu qu'il a vu le contraste qu'il y a dans la religion juive qu'il n'y a pas dans les autres religions, du fait que d'un côté il faut être extraterrestre, il faut être au-dessus de la terre, et de l'autre côté il faut être les pieds sur terre. Et c'est exactement le même dossier qu'on va voir aujourd'hui dans la suite du chapitre 7 de Char Ayichud Vaemuna, qui est très très riche. On a vu déjà la dernière fois sur qu'est-ce que le Admor Emtsai, le fils de Admor Hazaken, aspirait à ce que le peuple juif, quand deux juifs se rencontrent, on parle de Yichud Ha'ila et Yichud Ha'Tata, qui veut dire l'union d'en haut et l'union d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire en propre terme dans la vie de tous les jours? Alors d'abord, on peut demander une question. Si je te demande de peindre ou de faire un chassid, de me décorer un chassid, qu'est-ce que ça veut dire un chassid? Quand tu fais de l'art, dessine-moi un chassid, fais-moi un... Les gens vont te dire c'est quelqu'un qui danse. Et là, ils vont te dire c'est quelqu'un qui a un pied par terre et qui a un pied au-dessus de la terre. Un chassid, par définition, il incorpore à l'intérieur de lui deux contrastes, deux choses contraires. D'un côté, il est capable de regarder la réalité en face, voir le monde tel qu'il est, voir la réalité du monde, ne pas se déconnecter du monde, être sur terre, mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire être sur terre? Être pragmatique, être réaliste, ne pas vivre dans un monde extraterrestre, et de l'autre côté, être capable d'être au-dessus de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas s'émouvoir des difficultés que quelqu'un peut avoir, et ne pas s'émouvoir de ce que les gens peuvent dire, parce qu'il sait qu'il a sa mission sur terre, il sait qu'il a le but pour que Dieu l'a créé. Et pour ça, il est prêt même à donner sa vie, rien ne peut l'empêcher. Alors la question qu'on va aborder aujourd'hui justement, comment vivre avec les deux? Comment d'un côté vivre sur terre, être réaliste, être pratique, pragmatique, savoir qu'il y a un monde en face de nous? Et de l'autre côté, comment ne pas s'émouvoir du monde? Comment ne faire comme si le monde n'existe pas? Pour ça, on va dire, comme on l'a dit tout à l'heure aujourd'hui, le cours qu'on va voir, c'est mettre en place ce rêve, qui n'était pas un rêve du Admor Emtsai, qui était le deuxième Rabbi Chabad, le fils du Rabbi Admor Hazaken. Mais c'est surtout une aspiration à laquelle il demande à chacun d'entre nous d'aspirer. Chacun d'entre nous doit être dans cette idée. On va découvrir ensemble quelle est la notion de Yichud Ha'Ila et Yichud Ha'Tata, qui veut dire l'union d'en haut et l'union d'en bas. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit la dernière fois, Melech Ha'Olam. Est-ce que ta personnalité dépend de ce que les autres te valorisent? Très riche. Est-ce qu'en fonction de les gens qui te disent, tu as des beaux jeux aujourd'hui, t'es bien habillé, t'es un beau gosse, comme certains disent, un certain monsieur qui est ici présent. Est-ce que ça veut dire que, ah, maintenant je me sens à l'aise? Ou bien si quelqu'un te dit, qu'est-ce que t'es moche? Ah, maintenant je sens que j'ai plus ma place sur terre. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, on va comprendre qu'est-ce que font les tzadikim sur terre. Comment un tzadikim est capable de faire des miracles? Comment il est capable de voir ce qui va se passer plus tard? On a lu la semaine dernière, j'étais sur la Yula de Baba Salé, ce soir la Yula de Rabbanit. C'est quoi le rôle d'un tzaddik? Et après, on verra Yichud Ha'Tata. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment faire entrer tout ça dans la vie de chacun d'entre nous? Commençons d'abord à essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Le monde. Rabbi Yitzhak Abrahatsa, c'était la semaine dernière. Oui, Baba Salé, c'est la deux semaines. C'est ce que j'ai dit. Rabbi Yitzhak Abrahatsa, c'était le 23, oui. Le 13, juste avant Tobi Joat, c'est pour ça qu'on avait un cours justement dans le 16e. Hein? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu commences encore? Ok. Olam, le monde. Comment on dit le monde? Le monde a trois dimensions. Un, ce qu'on appelle la dimension de l'emplacement, l'endroit, le temps et les humains. Dans le langage de la Kabbale, ça s'acronyme dans un seul mot qui s'appelle Ashan, Olam, Shana, Nefesh. Olam veut dire l'espace, Shana veut dire le temps, Nefesh veut dire l'humain. Dans chacun de ces trois dimensions existe un autre détail dans lequel on va tout de suite voir qui est une entité totalement indépendante. Commençons à parler d'abord du temps, de l'espace. Dans l'espace, il y a ce qu'on appelle les quatre côtés. Et c'est la raison pourquoi quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on a l'habitude avec la tête de faire vers les quatre coins du monde, le Dalet de Echad, on a l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Pareil en haut et en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle une dimension totalement indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire un endroit? Un endroit veut dire une dimension dans laquelle je me trouve ici, présent, maintenant. Et par définition, si je suis ici, je ne suis pas là-bas. Si je suis là-bas, je ne suis pas ici. Tu ne peux pas être dans deux endroits au même instant. Ça, c'est par rapport au monde. Regardons le temps. Le temps, on a exactement le même problématique. On a ce qu'on appelle le passé, le présent et le futur. Chaque entité du temps est totalement séparée. Hier, ce n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, demain, ce n'est pas aujourd'hui. Chaque moment a sa particularité, chaque moment a sa spécificité, chaque moment a sa... Je ne dis pas seulement sa particularité, c'est un moment qui ne va pas revenir. On rappelle plusieurs fois la phrase que l'on dit répéter à chaque fois, que les gens se soucient sur leur perte d'argent, mais les gens ne se soucient pas sur la perte du temps. Alors, comme la Gemara nous dit, « Yamav einam chozrim damav chozrim » Un jour perdu, c'est un jour que tu ne reverras plus. L'argent perdu, c'est l'argent que tu vas regagner demain. Et parlons dans ce qui est maintenant la troisième dimension qui est la personne. Comme on l'a dit tout à l'heure, la personne, c'est surtout le fait de savoir où je suis dans la photo. Quel est mon rôle sur Terre? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Pourquoi Dieu m'a placé dans cet endroit, à cet instant, à ce moment, etc. Alors tu vas me dire, quel est le sens que je peux donner à ces trois dimensions? Et la réponse qu'on va voir aujourd'hui dans le Tania, c'est en fonction de quel attribut tu parles par rapport à quel mida avec lequel Dieu il agit sur Terre. Il y a un malchut qu'on a parlé longuement la semaine dernière, le fait d'être un roi. Et on a expliqué comme quoi la royauté de Dieu peut s'exprimer seulement si on peut dire par ça qu'il y a un peuple. Et de l'autre côté, il y a les autres attributs. On a vu la semaine dernière, quelqu'un qui a chesed, qui a la bonté, quelqu'un qui a l'intelligence. Tu peux très bien être intelligent sans s'informer sur toi-même. Tu es obligé de partager ton intelligence. Faut tout de suite voir. On a vu là d'abord la dimension de malchut. On a expliqué comme quoi, en meler bloa, un roi ne peut pas être un roi tout seul. Tu dois être un roi parce qu'il y a un peuple qui t'a nommé roi. T'as des gens extérieurs qui t'ont nommé roi. À ce moment-là, c'est pour ça que tu deviens roi. On a expliqué comme quoi le fait d'être roi, ça dépend de facteurs extérieurs à la personne. Et dans ça même, on peut retrouver ces trois dimensions qu'on vient de voir. D'abord, l'endroit. La grandeur d'un royaume est calculée en fonction du terrain sur lequel il gouverne. C'est pas pour rien que quand on va parler de la fête de Purim dans deux mois, Gilad Esther, qu'on commence tout de suite en disant qu'Achashverosh, il était à Molech Mehodu Vatku, chef Avesrim Omeham Medina, qui régnait sur 127 pays. L'idée justement de vouloir régner tellement de pays, c'était ce qui a fait tellement de coulées de sang sur terre, Napoléon Bonaparte et beaucoup d'autres, tous ceux qui ne se suffisent pas avec leur territoire et qui doivent forcément vouloir aller attaquer, prendre ce qui appartient à l'autre. Dans le temps, il y a aussi une dimension de combien de temps cette royauté elle existe. Parce que tu as des gens qui avaient par exemple des rois qui avaient un calendrier particulier en fonction de quand ils sont devenus rois. Et que tous les citoyens du pays, ils devaient à chaque fois noter, marquer le jour dans lequel le roi est devenu roi. D'ailleurs, on voit bien avec Achashverosh, dans la Megillah, encore une fois, on nous mentionne la troisième année de son règne. Dans le Tanakh, dans la Bible, on mentionne énormément, plein de fois des dates officielles à laquelle ça fait 10 ans de règne, 5 ans de règne, etc., etc. Et après, quand tu parles des humains, pareil, plus tu as des gens qui soutiennent ce roi, plus le roi est de beaucoup plus grand. On l'a vu ça la semaine dernière dans la notion de Berov Am, Adrat Meler. Plus il y a du peuple, plus au final la beauté du roi, on l'a vu par rapport à la beauté de Mila, ce qu'on fait les matins et les soirs à cause de ça, avant la tombée de la nuit, etc. Tout ça, c'est bien sûr quand tu parles de Malchut. Malchut qui veut dire la royauté, la volonté de vouloir régner. Mais quand tu parles des autres attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, là, c'est pas tellement important. Prenons par exemple la sagesse, la chokhma. On sait très bien que la sagesse d'un humain ne se mesure pas en fonction de combien de personnes il va enseigner ou à combien de personnes valorisent sa sagesse. Ça peut être quelqu'un qui est énormément un énorme génie, qui n'est pas forcément d'élève. Ou ça peut être quelqu'un qui peut enseigner à beaucoup d'élèves et pas forcément c'est le plus grand génie sur Terre. Donc la chokhma en général, la sagesse, c'est quelque chose qui dépend de l'humain et pas forcément de ce qui se passe en dehors de lui. On parle du chesed, la bonté, c'est exactement la même chose. La bonté ne dépend pas de combien de personnes une personne aide. Et à ça, il faut rajouter une parenthèse. C'est vrai que par ça qu'il y a d'autres personnes autour de moi, ça me permet de pouvoir exprimer ma bonté. Par exemple, quand il y a quelqu'un à qui enseigner, automatiquement, je peux pouvoir exprimer ma sagesse. On a vu le fameux argument avec le chesed qui s'est plaint devant Dieu quand Abraham n'avait pas d'invité. Ou d'abord en disant que le fait que Dieu, que le fait qu'Abraham a agi avec tant de chesed, j'ai plus rien à faire sur terre. De l'autre côté, quand il faisait tellement chaud, il n'y avait plus de bonté sur terre. Qu'est-ce qu'il, il n'y avait plus de personne sur terre. Il ne pouvait pas exprimer sa bonté avec qui que ce soit. Parce que tu peux dire, je suis bon. Mais si je n'ai pas envie d'exprimer quoi que ce soit, c'est un peu difficile. Ok. Donc, il y a une différence importante entre les traits de caractère de l'âme et la dernière qui est Malchut, qui est la bonté. Les différents attributs ne sont pas comparés face aux différents critères qui sont l'espace, le temps et la personne, alors que Malchut est, lui, pris en considération. C'est pour ça qu'on revient avec le terme Malchut sans arrêt, on va élaborer ça longuement aujourd'hui, du fait qu'une personne est capable d'exprimer sa bonté, pas forcément sur des humains, mais aussi sur des animaux. Par contre, Malchut, la royauté, tu ne peux pas être un roi sur des animaux. Tu peux être un roi que sur des humains. Tu peux être bon, gentil avec un animal, avec un chien, avec un chat, avec qui tu veux. Tu peux faire de la bonté envers un animal aussi. Mais royauté, quand tu parles de Malchut, Malchut, c'est pas sur des animaux, Malchut, c'est forcément sur des humains. Rentrons dans le monde du travail. Il y a deux types de travail sur Terre. Tu as des gens qui travaillent en fonction de l'heure et en fonction du projet. Quelle différence entre les deux? Disons que quelqu'un t'a demandé de faire une armoire. Il t'a dit, je te paye en fonction du projet. Tu m'as fait l'armoire, je te paye l'armoire. Combien d'heures t'as mis dessus? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu as pu mettre 5 heures, tu as pu mettre 50 heures. J'ai pas défini le temps d'heure et c'est pas en fonction de ces heures que je te paye. Je te paye en fonction du projet. Quand quelqu'un te paye en fonction d'heure, c'est pas qu'il cherche le projet rendu, il cherche en fonction de l'heure. Je te paye 5 heures par jour, c'est 5 heures par jour. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 5 heures? Peu importe. Tu es payé pour 5 heures par jour, 5 heures par jour. Le projet, il a été fait en 5 heures, il a pas été fait en 5 heures, c'est pas ça qui compte. C'est exactement la même chose que tu as. Quand tu parles avec un taxi, surtout en Israël, quand tu rentres dans un taxi, la première des choses qu'ils te demandent, est-ce que tu veux qu'on mette le compteur ou pas? En France, c'est rarement entendu une chose pareille, en Amérique aussi, tu n'entends pas. En Israël, en général, depuis les pères, regarde la tête du client et te dit, viens, on fixe un tarif, et quand tu sais, des fois, c'est trois fois plus, peu importe, après, chacun comment il décide. Donc, tous ces traits de caractère, de chokhma, depuis la sagesse jusqu'au reste, c'est bien défini, la personnalité de la personne. Ça ne dépend pas de ce qui se passe en dehors de la personne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement cette différence de ces différentes dimensions, l'espace, l'endroit, le temps, etc. Quand tu parles de Malchut, par contre, c'est totalement différent, parce qu'on a dit que Malchut, c'est quelque chose qui a un rapport avec la personne, un rapport avec le lieu, un rapport avec l'endroit. Tout ça, c'était pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une introduction à ce qu'on va voir maintenant, dans les deux différentes facettes avec lesquelles Dieu agit sur Terre. Avec le rapport que Dieu a sur la planète, le rapport que Dieu a sur le monde. Il y a un impact que Dieu a sur le monde qui n'a aucun impact sur l'humain. Parce qu'il est totalement déconnecté de nous. Et après, tu as un impact que Dieu a sur le monde qui a un rapport avec chacun d'entre nous. Et celui qui se rappelle ce qu'on a vu dans le cours précédent. On avait vu la différence entre Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Vaed. Qui veut dire? Aujourd'hui, on va voir que le monde, il a été créé par deux dimensions. La dimension de Malchut, qui est la royauté, et la dimension de Adnut. Adnut, qui vient du mot comme le mot Adon, qui veut dire un patron, qui est aussi le nom de Dieu, qui veut dire un maître. Et d'un, quand on a dit que Malchut, c'est obligé d'avoir un peuple. Et par rapport à Malchut, il y a une importance à chaque détail qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans le royaume. Il y a un détail de l'humain, les détails de l'espace, les détails de l'homme, etc. Et chaque chose a son compte, et chaque chose a sa particularité. Chaque chose a sa priorité. Ça, c'est la raison pourquoi on a Malchut. De l'autre côté, on n'arrête pas de dire dans les siddur du matin jusqu'au soir dans la prière, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? Que Dieu, il a régné, qui règne et qui règnera. Les trois temps pour Dieu, il n'y a pas de distinction entre les trois. Les trois sont exactement la même chose. Alors pourquoi, quand tu parles de Malchut, il y a ces trois dimensions? Pourquoi, quand tu parles de Havaï, qui est le nom de Dieu, il n'y a aucune différence avec ces trois dimensions? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à Malchut, qui veut dire agir sur terre, il y a une différence entre le passé, présent, futur. Je suis là, je ne suis pas là. Je suis dans un endroit, je ne suis pas dans un autre endroit. Alors quand tu parles d'au-dessus de Malchut, il n'y a pas cette distinction. Là, tu vas me dire, mais tout ça, qu'est-ce que ça me parle dans la vie de tous les jours? Là, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Parce qu'on ne parle pas ici d'une différence théorique tout court, mais on parle d'une énorme différence qu'il y a entre ce qu'on appelle les prophètes et les tzadikim, et entre les gens lambda, les gens simples comme chacun d'entre nous. Parce que Quand tu parles d'un prophète, quand tu parles d'un tzaddik, quand tu parles de qui que ce soit, qu'on dit qu'il est capable de voir lointain, de voir plus loin de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il est limité dans le temps et dans l'espace, ou bien il est au-dessus du temps et de l'espace? Quelqu'un de normal, quelqu'un comme chacun d'entre nous, n'est pas capable de voir ce qui va se passer demain. Parce que tu as des lunettes spéciales. Pourquoi? Parce qu'on est limité dans le monde. Et donc chez nous, on a une différence entre le passé, le présent et le futur. Aujourd'hui, nous, on est ici et présent. On voit ce qui se passe au moment présent. On n'a aucun moyen de voir ce qui va se passer demain. De la même manière, on n'est pas capable de voir ce qui se passe en dehors de notre espace. Parce qu'on se trouve dans un espace, on ne voit pas ce qui se passe derrière le poteau, derrière le mur. À part si tu as des caméras infrarouges, tu es capable de voir ce qui se passe à travers le mur, etc. Quand tu parles d'un tzaddik, quand tu parles d'un prophète, quand tu parles de ce qu'on appelle quelqu'un qui est saint, niveau spirituel énormément élevé, il est au-dessus de ces dimensions du temps et de l'espace. Il est capable de...
C'est quoi, il est rattaché à quoi ?
Tout de suite, il est quoi ?
Rattaché à quoi ?
Tout de suite, on va voir pourquoi, on va voir pourquoi il a cette capacité. Lui, il est capable de voir pas seulement le moment présent, il est capable de voir aussi le moment futur, il est capable de voir ce qui va se passer plus tard, pas seulement ce qui se passe ici, mais ce qui se passe ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle un des tests que la Torah te dit, comment tu sais qu'un prophète, c'est un prophète vrai, et pas un prophète faux ? C'est là quand il t'a dit de quelque chose qui va se passer dans le futur et que cette chose s'est accomplie. On parle en quelque chose de bien, pas quelque chose de mal. Là, on sait que c'est un prophète réel. Par contre, un prophète qui t'a prédit que quelque chose de mal allait se passer, que Dieu nous en préserve, et ça ne s'est pas passé, ça ne veut rien dire. Comme la halakha te dit, parce que ça se peut que Dieu a vu que les gens ont fait tchouva, il a changé. Mais un prophète, par définition, qui te dit, je sais ce qui va se passer, et tout va bien se passer, et que les choses se sont passées, on sait que c'est un vrai prophète. Enlevons la personne et rentrons dans l'espace, et on voit que ça, c'est ce que la Torah nous explique, entre la différence entre un miracle et la nature. Et on revient encore au cours qu'on a vu lundi soir, qui était merveilleux, le cours de dimanche matin, qu'on a commencé la nouvelle série de GLI sur les conseils de Rabbi pour la vie. On a parlé sur le sens au travail, comment donner un sens au travail très riche qu'on peut voir sur Torah.fr. Si Dieu veut, dimanche prochain, on rentrera dans la maison, comprend toute la notion de l'unité de famille, pourquoi c'est tellement important de la préserver. Et après, on verra sur la santé, une série de six cours merveilleux. Quelle est la différence entre un miracle et la nature? On a expliqué comme ça, qu'un homme normal n'est pas capable de faire de miracles. Tu peux agir seulement dans tout ce qui est les lois de la nature. Tu peux agir de manière naturelle. Un navi, un prophète, un tzaddik, puisqu'il est au-dessus du monde, puisqu'il n'est pas dépendant de ce qui se passe dans le monde, puisqu'il n'est pas limité dans les barrières du monde, il est capable d'agir avec les lois qui sont au-dessus de la nature. Alors oui, quand tu vas voir un docteur, il te dit, monsieur, je vous dis que vous ne pourrez pas avoir d'enfant, que Dieu nous en préserve, que cette personne ne peut pas guérir. Parce que ce docteur, il est limité, il a son cadre, il fait 1 plus 1 égale 2, et ça égale 2, ça ne marche pas. Tu vas voir un tzaddik qui voit les choses au-dessus de la nature, il voit les choses comment ils ne sont pas seulement dans ce monde, ils sont dans le monde en haut. Lui, il est capable de te dire, il y a un problème dans l'ADN, il y a un problème dans, on va dire, dans le gène de tel ou tel détail, si tu changes ce gène et tu le mets ailleurs, ça pourra marcher, ça pourra fonctionner, c'est ce qui fait que ça marche. Ça, c'est ce que la Noazakim va commencer à nous expliquer ici dans le premier paragraphe de la suite du chapitre 7. Pourquoi ces dimensions de temps et d'espace existent seulement quand tu parles de le nom Malchut et le nom Adon, qui est ce qu'on appelle le nom de Dieu à chaque fois, et pas par rapport aux autres critères. Pourquoi? Parce que toutes ces différences que nous voyons dans la vie de tous les jours, elles existent seulement dans cette planète. C'est pas pour rien qu'on va voir qu'à chaque jour, quand tu parles dans la tefila, tu lis ce qui n'est pas écrit. Prenons, j'ai dit j'allais faire le test avec chacun, j'ai pas mis les sidours. Comment tu lis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Vas-y, lis-moi les phrases.
Shema Israël, Adonai.
Qu'est-ce qui est écrit après Israël?
Adonai.
C'est pas écrit? Quand tu lis, tu vas être en train de lire ce qui n'est pas écrit.
Ah.
Comment ça se fait que c'est écrit Yud Kei Vav Kei? C'est écrit le tétragramme, c'est écrit le nom de Dieu qui est le nom le plus élevé 26. Mais dans la manière comment on le dit, on parle d'Adon, de Maître qui a un rapport avec nous. Tu vois la différence et c'est ça qui va expliquer la Noazakim. Que dans l'idée, Dieu est au-dessus de la nature. Sauf que nous, comment on l'exprime comment il est habillé dans le monde. C'est pour voir pourquoi. Geder 1, Veine, Geder, Prinat, Shem, Olam. Qu'est-ce que ça veut dire le nom Olam qui veut dire que Dieu est l'éternel? En règle générale, quand tu parles du monde, Nofel al prinat makom au prinat zman d'Afrique. Quand tu parles du monde, tu parles de ce qui dépend du temps, ce qui dépend de l'espace. Prinat makom, on l'a vu, c'est quoi le temps? Avec le temps, il est limité. Tu as, pas le temps, l'espace. Tu as Mizrach, Maharav, Tsafon, Darom, tu as le nord, le sud. Tu as l'est, l'ouest, Mala, Matalo et le bas. Prinat zman, en termes du temps, Avar, Veveati, tu as le passé, le présent et le futur. Toutes ces différentes dimensions de ce qui est le temps et l'espace, ils n'ont aucun rapport avec tous ces attributs saints élevés du monde de Hatzilut. Le monde qui est le monde de l'émanation, qui est plus haut que l'espace et le temps. Kiim, il s'exprime quand? Femidat, Malchuto et Barer, seulement dans la manière comment s'exprime la royauté de Dieu, le Vada toute seule. C'est seulement là-bas, Shayech Lomar, c'est là-bas qu'on peut dire, Shehu et Barer, que Dieu, il est Melech, le Malad en Ketz, il est le roi des choses les plus élevées, ou le Matad en Tachrit, dans les niveaux les plus bas, sans limite. Vechen et Dalet Sitrin est pareil dans les quatre coins du monde, comme l'expliquait longuement dans les chapitres précédents. Vechen et Prinazman est pareil quand tu parles en termes de temps. C'est très bien que pour Dieu, il n'y a pas cette dimension. Hachem Malach, c'est au présent, il est maintenant roi. Hachem Malach, il était roi au passé. Hachem Imlor, il sera roi au futur. Venim ça. Qu'est-ce qu'on voit de là? Chechay, Yotama, comme que la vie qu'il y a dans l'espace. Chen, Chayotazman, est la vie qu'il y a dans le temps. Veitavutam, mais Enayashekom, en les faire vivre et maintenir et exister du néant à l'existant. Vekiyumam, Kolzman, Kiyumam, et les faire maintenir tout le temps qu'ils existent. D'où ça vient? Umimidat, Malchuto, et Barer, ça vient de la tribu de Malchut, qui est la royauté de Dieu. Veshem Adnut, Baruchu, et le nom de Adonai, le nom de Adon, qui veut dire qu'il est un maître sur le monde, sur la planète. Ça, c'est la base numéro un. Pourquoi? Parce qu'au final, si ça ne dérange pas dans cette configuration, ça ne marche pas sur Terre, ça ne peut pas avoir un, ça ne peut pas agir sur Terre, ça ne peut pas fonctionner sur Terre. Merveilleuse histoire.
Et donc, ça veut dire quoi, juste? Le
tzadik,
le
chassid,
il arrive à se connecter.
On va y arriver, on va arriver après. On n'est même pas rentré dans ça. On est encore dans l'introduction pour comprendre où se situe, pourquoi Dieu doit fonctionner sur Terre seulement avec la tribu de Malchut. On continue ce qu'on a vu la semaine dernière par la royauté, qui est justement la seule de tous les attributs qui a cette dimension de temps, espace et personne en fonction des différents temps. Parce qu'au-dessus de Malchut, ça ne concerne pas. Et c'est pour ça que quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Baruch Shem, tu parles en termes de qu'est-ce que Dieu il a à faire pour toi dans ce monde bas, dans ce monde matériel, avec ses limitations. Ça veut pas dire que Dieu est limité, c'est dire que c'est comment toi tu le comprends. Et comment toi tu le comprends, ça doit rentrer dans ce cadre. Si ça rentre pas dans ce cadre, tu pourras pas le comprendre. On va tout de suite voir une histoire. Une personne qui est venue voir un tzadik qui a dit que son fils est gravement malade. Et les docteurs, ils ont dit que le seul moyen de pouvoir guérir cette personne, c'est en faisant une opération compliquée et dangereuse. Il est parti voir le tzadik et il a demandé une bénédiction que l'opération réussisse malgré tous les dangers. C'est-à-dire qu'il lui répond, il lui dit, écoute-moi une chose, t'es vraiment la plus idiot sur Terre. Il dit, pourquoi je suis idiot? Fais la place, demander une bénédiction que l'opération réussisse. Tu aurais dû demander que ton fils guérisse sans avoir besoin de faire une opération. Pourquoi déjà rentrer dans le cadre de la nature, de la limite? Que puisque le docteur, il a dit qu'il faut que je fasse une opération qui est dangereuse. Alors je demande une bénédiction que l'opération puisse réussir. Je demande une bénédiction qu'il n'y ait pas d'opération. Va un cran plus haut. C'est-à-dire, quelle est la différence entre les deux? Quelle différence entre demander une bénédiction que l'opération réussisse et demander une bénédiction qu'il n'y ait pas d'opération? On parle ici d'une différence d'approche de 180 degrés. Et ça, c'est la différence de Adon et Hachem. Comme tout à l'heure, tu viens de mentionner les deux. La bracha que l'opération réussisse, c'est une bracha naturelle. Et ça, c'est ce qu'on va tout de suite voir avec la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine dernière. La différence entre un miracle et la nature. Une bracha naturelle, puisque d'après les lois de la nature, il faut une opération. J'ai pas le choix que de passer par l'opération. Alors je demande une bénédiction, que Dieu efface, que Dieu aide, que l'opération réussisse. Qui est ce qu'on appelle une réussite dans les voies de la nature. Mais t'as des fois une bracha que t'as pas besoin d'arriver à l'opération. L'opération, ça veut dire que la nature ne prend pas place. Ça veut dire que la nature, elle est totalement soumise à la volonté de Dieu. Donc même si d'après les lois de la nature, le docteur a décidé qu'il faut une opération, vient ce qu'on appelle un miracle surnaturel. On a débattu sur ça dans les cours dimanche. Et qui fait en sorte que la nature se met de côté. Le miracle peut faire en sorte que le malade peut guérir sans opération. Oui, c'est pas logique d'après la nature. Et qui a dit que je dois rentrer dans les lois de la nature? Et donc ça, ce sont les deux dimensions. Si tu parles de Adonai, si tu parles de Adon, que Dieu est le maître, patron du monde, mais c'est limité dans les lois de la nature. Ou bien si tu parles de celui qui est au-dessus des lois de la nature. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que je dois choisir? On va tout de suite voir. Donc encore une fois, si on résume ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on a deux différentes manières comment on voit comment Dieu agit sur Terre. D'un côté avec les six attributs qui sont le nom Hachem et Elohim, ce qu'on appelle qui est totalement au-dessus de la nature, et de l'autre côté au-dessus des dimensions du temps et de l'espace, et t'as le nom Adon, qui est le nom dans lequel c'est en rapport, en liaison avec le monde, en liaison avec le temps et en liaison avec l'espace. A priori, tu vas me dire qu'ils sont totalement deux contraires. Je peux pas agir de manière au-dessus de la nature et dans la nature au même instant. Viens à la Kabbale. Est-ce qu'on a vu les derniers six chapitres? Est-ce qu'on a vu au début du septième chapitre? comme on l'a vu surtout dans le 16e chapitre, que Hachem et Elohim ne sont pas contradictoires, que agir au-dessus de la nature est dans la nature. Pour nous, c'est pas possible, pour Dieu, c'est possible. Ça dépend de quelle dimension on le regarde. C'est pour ça qu'on a dit dans le verset, Hachem Elohim ou Hachem Echad, qui veut dire que le nom est la preuve, c'est quand on dit la phrase Shema Israël, Hachem Elohim, on dit pas le mot Hachem comme il est écrit, on dit le mot Adon. Qui veut dire que pour nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que cette union, c'est une union qui existe. Maintenant, quand tu parles d'une union entre deux choses, il peut exister deux manières comment les unir. Ou que tu as ce qu'on appelle l'invité et l'hôte, tu as l'essentiel et celui qui a été invité à l'intérieur, ou bien que le contraire, le plus important, c'est pas l'hôte, le plus important, c'est l'invité. Quand tu parles ici de Hachem et Adon, tu peux dire exactement la même chose. Tu peux dire que l'essentiel, c'est la dimension de Dieu comme elle est surnaturelle. Néanmoins, puisque moi je suis limité, matériel, terrestre, je suis obligé d'avoir une dimension naturelle, pour ça je ne comprends pas la dimension de Dieu qui est surnaturelle. Ou bien on peut dire que non, l'essentiel c'est le nom de Dieu qui est naturel, puisqu'au final on vit dans ce monde, on ne vit pas dans une autre planète, et la dimension surnaturelle elle existe, mais c'est un peu importe. On voit cette différence dans les Sidurim Sepharad. Les Sidurim Sepharad, et surtout c'est les Sidurim qui sont avec la Kabbale, etc. Il y a plusieurs fois que les deux noms de Dieu sont écrits ensemble. Comment, est-ce que tu as une fois fait la différence? Une fois, ça commence avec le Yud, après le Aleph, c'est intercalé les deux. Donc ça commence avec le Yud, Kevav, Kem, après tu as le Yud, Aleph, après tu as le He, le Dalet, le Vav, le Nun, le He, le Yud. Et une fois, ça commence avec le Aleph. Aleph, Yud, Dalet, He, Nun, Vav, Yud, He. Quelle différence? C'est juste un jeu de mots, parce qu'on a mal le codage, on s'est mal trompé. Non, c'est bien expliqué, justement, après la Kabbale, on t'explique que ça, c'est la raison pourquoi on veut exprimer à ce moment de la prière, est-ce que Dieu il agit tout d'abord par les voies de la nature? Est-ce qu'il est au-dessus de la nature, c'est secondaire? Ou bien il agit d'abord avec les voies qui sont au-dessus de la nature? Est-ce qui est naturel, c'est après? Tu vas me dire d'où on le comprend dans la tefila de tous les jours. Pour ça qu'à chacune des brachot, on a l'habitude de répondre Amen. C'est quoi Amen? Pas l'acronyme du mot Amen, qu'est Malach Neman, etc. Amen, c'est le compte numérique combien? Aleph, ça fait 1. Même 40. Et Nun 50, ça fait combien? 91. Maintenant, tu prends le mot Yud Kevavke qui est 26, Adon qui est 65, 91. Ça, c'est la magie. Pourquoi on dit à chaque fois? C'est-à-dire que le fait de faire cette union entre les deux, cette union qui est entre Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad d'un côté, qui vient t'expliquer comme quoi il y a ce qu'on appelle Shem Hashem Elokim, qu'on a expliqué longuement dans les chapitres précédents, que ça reflète Yichud Allah, cette union d'en haut. Mais après, on descend terre à terre, rappelons-nous ce qu'on a vu la semaine dernière, ou il y a deux semaines, avec Yaakov, entre Yaakov et ses enfants. Faire descendre ça dans l'union d'en bas, mais pas seulement rester dans l'union d'en haut, mais rester dans l'union d'en bas. On unit les deux ensemble, constamment, tout le temps, pendant la prière, etc. Là, tu vas me dire, tout ça, ça peut avoir l'air tellement abstrait, tellement déconnecté de la vie de tous les jours. Viens là de moi, à Zakaï, tu dis que non. Ça s'exprime dans la vie de chacun d'entre nous de manière journalière. Comment? Par rapport aux miracles, est-ce que les miracles sont surnaturels ou ils sont dans la nature? Est-ce que je dois sacrifier ma vie ou je dois faire entrer un sens dans la vie? Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine avec Yitro. Pourquoi le plus grand pape de l'époque, pourquoi le plus grand prêtre de l'époque a décidé de venir se convertir au judaïsme? Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le judaïsme qu'il n'y avait pas dans les autres religions? Il n'y avait pas le catholicisme à l'époque, il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé dans le judaïsme qu'il n'y avait pas dans le reste? Parce que jusqu'à présent, il s'est dit, ou il faut, pour pouvoir servir Dieu, être déconnecté du monde, ou être totalement soumis au monde. Ça, c'est le TikTok qu'on vient d'envoyer. C'est un résumé d'une minute sur tout ce cours qu'on avait laissé, qui est tellement riche, et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Il s'est dit, c'est difficile d'avoir un lien entre les deux. Viens ce qu'on prie dans la vie de tous les jours, et la Torah te dit, non, monsieur, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est totalement abstrait, déconnecté, Dieu vient, il agit sur toute la planète de manière surnaturelle. Fais-le descendre sur terre. Baruch Shem Kevod Machoto Lavet, qui veut dire fais-le descendre dans la vie de tous les jours. Dieu n'attend pas de toi de donner ta vie pour Dieu. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la halakha. Quand tu dis Shema Israël, tu dois penser de faire Messirut Nefesh, de vouloir donner ta vie pour Dieu. Mais c'est parce que Dieu l'attend de toi. Tu dois vouloir le faire, mais c'est pas pour ça que tu dois le faire. Il n'y a pas un soldat qui va à la guerre en disant je vais pour me faire tuer demain. Il va, il est prêt à donner sa vie. Mais le but, c'est pas de donner sa vie. Le but, c'est de se battre, de se combattre pour pouvoir réussir à éradiquer l'ennemi. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours avec les deux. Encore une fois qu'on a vu toute cette introduction, maintenant on va comprendre quelle est la notion de Yichud Ha'ilah qui veut dire, on l'a dit tout à l'heure, cette union d'en haut, et comment c'est imprégné et c'est impacté dans la vie de chacun d'entre nous dans cette union d'en bas. Comme on l'a dit tout à l'heure, Yichud Ha'ilah veut dire pouvoir faire ce mélange entre Hachem et Adon. Qui veut dire que le nom de Dieu, c'est lui qui est le patron. Le nom de Dieu, comme passé, on parle de celui qui est sur le surnaturel, surlimité, qui descend sur Adon, qui est le patron sur terre. Très bien. Où ça s'exprime dans la vie de tous les jours? Les miracles surnaturels. Quand est-ce qu'on a vu des miracles surnaturels? À travers l'histoire, on a vu ça la semaine dernière. L'ouverture de la mer Rouge. L'eau n'est pas faite pour tenir debout. L'eau, elle est faite pour tomber. Le fait que l'eau a tenu debout et beaucoup d'autres miracles, on peut dire que c'était vraiment des miracles surnaturels. Qu'est-ce qui se passe quand on voit un miracle surnaturel? Ça, c'est le dévoilement du nom de Dieu qui est sur la nature, qui vient et qui gouverne et qui contrôle les lois de la nature que eux, ils dépendent du nom de Adon. Adon qui veut dire un nom qui est totalement adapté aux lois de la nature. Ça veut dire que Dieu, il s'est dit, je ne me considère pas avec les lois de la nature. J'en ai absolument rien à faire de ce qui se passe dans la nature. Je décide d'agir comme si la nature n'a pas sa place. Ah, dans la nature, l'eau doit descendre par terre, ne pas se tenir au mur. Et moi, j'ai décidé que l'eau va pas être par terre, l'eau elle va se tenir en muraille. Pourquoi? Parce que le miracle se passe dans le monde, mais avec des critères surnaturels. Ça, c'est une manière d'agir. Deuxième manière de pouvoir s'exprimer, c'est dans le service de l'homme. Comme on l'a dit tout à l'heure, le premier espace, c'est quoi? Yehuda Ila, qui veut dire être avec cette union d'en haut. C'est d'être, quand l'homme, il vient et se dit, je suis totalement soumis à la volonté de Dieu. Mon existence n'existe pas, peu importe s'il y a des difficultés, peu importe s'il y a des casse-têtes, des ennuis. Il y a une seule chose que moi je cherche, là, une seule chose que je cherche, servir Dieu. Faire ce que Dieu lui demande. Et pour ça, je suis prêt à donner tout ce qui est le plus cher, l'argent, mes biens, la santé, même la vie. Tout ça, je le fais pour la volonté de Dieu. Où on trouve ça? Et chez qui on trouve ça? Et qui est capable de le faire? Le tzadikim. La réalité, c'est que c'est pas quelque chose que tu peux demander à chacun d'entre nous. Et la noix, c'est clairement dans le Tania. On a tous une femme, des enfants, des désirs matériels, des plaisirs matériels. Et là, Dieu n'attend pas de toi de tout jeter ce monde matériel. Dieu t'a mis dans un monde matériel. Mais les tzadikim, pourquoi ils ont eu cette particularité de pouvoir faire des miracles? Parce que pour pouvoir faire un miracle qui est surnaturel, tu dois être à un niveau spirituel qui est surnaturel. Un niveau dans lequel tu ne te considères pas avec toutes les difficultés, avec toutes les limites du corps, avec toutes les limites du monde. Tu peux pas te comporter soumis à la loi de la nature et faire un miracle qui est surnaturel. C'est contradictoire. Quelqu'un qui sert Dieu de manière surnaturelle, il est défini comme le nom d'un tzaddik, et de manière naturelle, il a la capacité de faire des miracles. Parce que la nature n'a pas d'impact sur lui. On a vu ça avec le Bastelon, on a vu ça avec le Rabbi, on a vu ça avec des centaines de tzaddikim à travers les générations. C'est quoi? C'est des coups de magie? C'est pas des coups de magie. On parle de tzaddikim. Qui était capable de faire des miracles et des merveilles et voir ce qui se passe au futur. Parce qu'ils n'étaient pas soumis aux lois de la nature, parce que dans leur vie de tous les jours, eux-mêmes, dans leur comportement, n'étaient pas soumis aux lois de la nature. Ils étaient plus hauts que la nature. Par contre, sur le Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov faisait des miracles, c'était hors norme. C'est pour que dès que quelqu'un aujourd'hui te dit qu'il a fait un miracle particulier, l'histoire du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça veut dire des choses hors normes? Que ce soit le Baal Shem Tov, il y a une fameuse histoire par exemple que le Tzemach Tzedek raconte, qu'une fois il a écrit le Baal Shem Tov à son beau-frère, Rabbi Gershon de Kitov, qui avait fait Aliyah en Israël. J'ai vu qu'on t'a jugé dans le monde d'en haut et qu'on a décidé de t'enlever la vie parce que t'as osé parler pas comme il fallait à ton maître. Néanmoins, ils ont décidé de changer ça avec un mois que tu seras sourd. Et comme c'est considéré que quelqu'un qui passe aveugle, et par ça que t'es aveugle, un mois t'es considéré comme mort. Et comme ça t'as été quitté de ce jugement. Fais attention à la prochaine fois. Et il a signé Israël Bachan. Comme ça, il envoie une lettre à son beau-frère. Son beau-frère répond, Baal Shem Tov, il dit, je sais pas quoi te répondre. L'histoire est vraie, mais pour moi, c'est quoi? C'est pas qu'il avait Facebook ou WhatsApp à l'époque. Il dit, je suis tellement étonné. Comment tu es capable de savoir de quelque chose qui s'était pas encore passé? Que quand tu me l'as dit, c'était pas encore passé. Ça s'est passé après. Mais tu me l'as dit déjà avant. Dis-moi, le Baal Shem Tov, il a vu quelque chose qui va se passer et qui lui a fait savoir comme si c'était déjà passé. Encore une fois, on parle de Tzadikim qui était totalement au-dessus des lois de la nature. Ils n'étaient pas connectés avec le monde par terre. Ça, c'est ce que l'Allemand Zakhan explique ici dans le deuxième chapitre. Deuxième paragraphe, quel est ce mélange qu'on a entre Adon et Hachem? En deux mots, que le temps et l'espace sont totalement effacés au nom de Dieu. Et ça montre comment ces lettres du nom de Dieu viennent nous donner cette allusion par ça que le passé, le présent et le futur est totalement un. On le fiche, et Médad Malchut et Bar et puis, ce qui est la manière comment Dieu il agit sur terre, la royauté de Dieu sur terre. Il est tellement uni avec son essence, avec son existence, avec toute son union. Comme on va expliquer plus tard, il cache et donc gam prinat amakom beazman, même l'endroit et l'espace, betelim bimtsud mamash, ils sont totalement effacés. Le gabem ma'otovat mutedber par rapport à l'essence de Dieu, que bitul or hashemesh beshemesh, comme est annulée la lumière du soleil dans le soleil. On a vu ça déjà la semaine dernière, la semaine précédente, qu'au final, s'il n'y a pas le soleil derrière, les rayons n'auraient pas pu éclairer. Zéo, cette union de la royauté de Dieu dans l'essence de Dieu. Zéo, Shilouf, Shemadnout, Beshemavay. Ça, c'est pour ça qu'on a cette union du nom de Adon dans le nom de Dieu. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le nom de Dieu qui est le tétragramme, le cube du mérite 26. Ça, c'est le plus important avec quoi Dieu agit de manière surnaturelle. Sauf que tu as le nom Adon, qui veut dire maître du monde, comme gère le monde, qui est inclus à l'intérieur de ce monde. Pourquoi? Kishem, Avay, quand tu parles du nom d'Avay, Moreshou, le Malamin Azman, ça te montre que Dieu est totalement plus haut que le temps. Shehuaya, Ove, Veye, Berega, Echad, qu'il était, il est, il sera au même instant, comme on a vu dans les Zohar, par Hachat Pinchas. Vechei, le Malamin Prenat Makom, il est plus haut aussi que l'espace. Kume, Avay, Tamid, parce qu'il exprime tout le temps, et Kol, Prenat Makom, Kulo, tout l'espace du temps. Milmalad, le matal, dal, etc., dans les quatre coins du monde et de haut en bas. Par rapport à Dieu, il n'y a pas de défini, pas de limite. Par rapport à comment s'exprimer dans la vie de chacun d'entre nous, on sent cette limite. Un juif, une fois, il est parti, il a été invité dans la ville de Koutsk. La ville de Koutsk était connue par rapport à son grand tzaddik de l'époque, qui était le rabbi Mendel de Koutsk. Il a voulu savoir comment vivent les chassidim qui habitent à Koutsk. Après, il arrive, il est parti dans la maison, c'était le soir de Pessah. Après, il arrive à la synagogue, il est invité et il va chez son hôte à la maison. Il voit à la table du seder avec des chansons, l'explication, etc. C'est imaginé, va savoir comment... Ça va être magnifique ce soir du seder ce soir. Et tout d'un coup, il entend l'invité qui dit à sa femme, viens, on va manger le repas du soir. Viens, on va manger le souper. Il n'arrive pas à comprendre, il dit, qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est le seder ce soir. Il va manger le repas du soir comme si c'est un repas normal, comme si c'est banal. Mais comme il est étranger, il préfère se taire, il préfère rien dire. Passe le seder, retourne à la maison et il reste avec cette question. Il fait, c'est bizarre, ces gens comme ça, le soir du seder, viens, on va manger le souper comme s'il n'y a rien de spécial. Arrive la fête de Kippour, et là, il s'est dit, tout quand je vais voyager à Koutsk, voir ce qui se passe à Koutsk Kippour. Il faut moins Kippour, j'espère que ça sera quelque chose de particulier. Il rentre à la synagogue avant qu'on l'hydre, tout le monde se prépare, Kippour, première prière de Kippour, etc. Et il entend le rabbin qui dit, oh, Chazan, viens, on va prier Marie. C'est quoi ces gens bizarres? C'est Kippour ce soir. Là, il va plus se retenir, il demande à son autre, il dit, je comprends pas, vous avez pas honte. Le soir de Pessah, t'appelles ça un repas normal. Fête de Kippour, t'appelles ça la prière normale. Je sais quoi, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas quelque chose de particulier. Il a dit, écoute, la différence, c'est quoi? C'est qu'ici, chez nous, chaque soir, c'est le soir du Seder. Chaque prière, c'est la prière de Kippour. C'est pas que, ah, arrive Kippour, là, je sens, il y a un Dieu sur toi, je me comporte comme il faut. Dans la vie de tous les jours, je me comporte n'importe comment. Non! Au contraire, toi, ta vision des choses, c'est bon, chaque jour, ça va, c'est simple, c'est banal. Arrive le soir de Kippour, là, je donne une importance. Il dit, ici, dans la ville d'écoute, c'est le contraire. Il n'y a pas une prière qui n'est pas aussi importante que la prière de Kippour. Il n'y a pas un repas qui n'est pas aussi important que le repas du Seder. Alors quand on demande la question maintenant à chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères l'approche numéro 1 ou l'approche numéro 2? Est-ce que tu préfères l'approche qui est ce qu'on appelle l'Ikhuda et là, l'union d'en haut ou l'union d'en bas? Est-ce que tu préfères être totalement soumis à la volonté de Dieu? Il n'y a pas de différence dans l'espace, le temps, tout est la même chose, il n'y a pas d'importance à qui pour, pas qui pour, toute l'année c'est la même chose, le Seder c'est la même chose, ou bien on a des différences. Il y a des moments où tu te sens plus en phase avec ce que tu fais, il y a des moments où il ne faut pas se verrer la face, il s'en prend la tête plus qu'autre chose. Il y a un jour que tu as envie de prier, tu es vraiment plein d'enthousiasme, plein d'excitation, tu dis, ah, j'ai envie de remercier le bon Dieu pour ce miracle, ou plus parce que je suis en vie. Et un jour, quand tu sais quoi, c'est fatigant plus qu'autre chose, ben, je prends la prière à 10 minutes, j'ai autre chose à faire. Où on se situe dans les deux? Maintenant qu'on a appris que le Mazakan est à parler sur ce qu'on appelle Yehuda, et là, le niveau le plus élevé, et qu'on a vu comment le nom Adon, il est totalement lié avec le nom Hachem, et comment le nom les miracles surnaturels, ils sont la manière comment Dieu il agit sur terre. Qu'est-ce qui nous manque à nous? Tu vas dire, pourquoi j'ai besoin de descendre au niveau le plus bas? Et la réponse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au final, nous sommes tous des agents terrestres et matériels. Public, présent, exclu, on a affaire qu'avec des tzadikim. Les gens normaux ne sont pas comme ça. La réalité, elle est que si tu vas seulement d'après la première approche, qui est que ne pas considérer les lois de la nature, et de faire comme si le monde n'existe pas, et de t'imaginer comme si la nature n'a aucun sens, très rapidement, tu n'es plus sur cette planète. Ça veut dire quoi? Pas manger, pas dormir, pas s'entretenir, pas faire attention à son corps, je fais comme si, ah, il n'y a pas de monde. Pourquoi tu parles? Dieu a envoyé une échama dans un corps. Il n'a pas envoyé une échama hors d'un corps. Dieu a voulu que l'échama fonctionne dans le corps. Et au final, on ne peut pas se déconnecter du monde. Que tu veuilles ou pas, on n'a pas le moyen, on n'a pas d'autre moyen que d'agir dans le monde. Et ça, c'est la raison pourquoi on a besoin d'avoir la deuxième dimension qui est Yichud Atata, qui est cette union d'en bas. Pourquoi? Parce qu'on accepte le fait que Dieu il a donné son importance à terre. On accepte le fait qu'il y a l'importance de ce qu'on appelle dans le temps, dans l'espace, et ça prend toute sa dimension. Mais on est obligé d'avoir les miracles qui sont habillés dans la nature, avec son risque, on va tout de suite voir. Quel miracle on sait qui est habillé dans la nature à tel point qu'il te donne près de confusion et qui te donne parfois la notion de ne pas réaliser que c'est un miracle? On verra ça dans 2 mois avec le miracle de Purim. miracle de Pourim, c'est quoi? C'est un miracle qui est tellement voilé dans la nature, qui est tellement caché dans la nature, que parfois les gens ont tendance à te dire, il n'y a pas eu de miracle. Alors qu'en réalité, c'était un miracle avec toute sa dimension, comme le miracle de Hanouka, comme les autres miracles, mais comme il était habillé dans la nature, ça a pu faire une erreur à certaines personnes de penser qu'il n'y a pas eu de miracle. On a vu ça aussi avec Abraham et les anges, que les anges étaient tellement habillés dans la nature, qu'ils se sont soi-disant comportés dans le monde comme si ce n'était pas des anges, alors qu'en réalité c'était totalement des anges. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous? Le devoir, comme on appelle ça aujourd'hui, dans les jargons d'aujourd'hui, de sanctifier la matière, travailler avec le monde, faire entrer un sens à notre vie. Tu veux dire, Dieu n'attend pas de toi de te déconnecter du monde. Dieu n'attend pas de toi de te séparer du monde. Avec ça, on a commencé le cours au début aujourd'hui. Dieu n'attend pas de toi d'être totalement hors sol, d'avoir les pieds sur terre, mais de chercher comment faire entrer la sainteté, la divinité dans n'importe quelle dimension du monde. Et la Torah donne une importance au temps et à l'espace. La Torah, elle te dit comment il faut rentrer la sainteté dans chaque dimension du monde. Et oui, la Torah, prenons maintenant les trois exemples qu'on a vus au départ, le temps, l'espace et l'humain. Dans le temps, on voit comment la Torah te dit clairement qu'est-ce qu'on appelle la première mitzvah qu'on a reçue, sanctifier les mois, sanctifier le calendrier, les années, la septième année, l'année de la Shemitah. Dans les années même, on a ce qu'on appelle le temps de la période des fêtes. Dans la semaine, on a six jours de semaine. Ce jour travaillera, le septième jour te reposera. Le jour, on a aussi des horaires qui sont destinés à la prière. Dans l'heure même, il y a des différences entre les horaires, entre les minutes. Ce qui veut dire que le même instant, ça peut être un instant qui est Shabbat et qui peut être semaine. Et donc là, la Halakha te dit clairement, Shabbat rentre à 18h38, ce n'est pas 48, c'est 38. C'est-à-dire que cette même Torah qui est surnaturelle, elle veut qu'on agisse dans le monde, dans les dimensions du monde. Tu vois, moi, je fais tout en l'air, et peu importe, je suis rentré Shabbat à 10h du matin. Non, la Torah, elle veut que tu rentres, tu respectes, qu'il y a un temps, un certain temps pour mettre tes tefillin, un certain temps pour prier, un certain temps pour la prière du matin, un certain temps pour la prière du soir, etc. Ça, c'est par rapport au temps. Donc c'est la Torah elle-même qui vient et qui nous dit comment on doit descendre terre à terre. La Torah elle-même, elle ne veut pas que tu sois déconnecté du monde. La Torah elle-même, quand elle te dit « faire Torah et Mitzvot », c'est à condition que tu acceptes le fait que tu es matériel et tu vis dans ce monde et tu fais entrer la Torah dans les dimensions du monde. Ça, c'est dans le temps. Dans l'espace, c'est très bien qu'il y a une énorme différence entre la terre d'Israël et les terres en dehors d'Israël. Dans Israël même, il y a une différence entre Jérusalem, Yerushalayim et les autres endroits. Dans Yerushalayim même, il y a une différence entre ce qui était la ville de Jérusalem et le mont du Temple, le Harabait. Dans le mont du Temple même, il y avait le mont du Temple, il y avait Kodesh et Kodeshim, le Saint-Dessin. Donc encore une fois, tu vois que la Torah elle-même, elle est celle qui te donne des différentes dimensions, des différentes différences dans l'espace. C'est pas juste, tout le monde, Dieu est partout, il y a la sainteté partout, la divinité partout, non. Pareil, la Torah te demande de faire énormément attention, comme on voit en ce moment avec les lois de voisinage, donc c'est celui qui fait Rambam tous les jours, les lois de Rambam qu'on apprend, ou bien la Gemara, la Kama qu'on est en train d'apprendre. La Torah dit de faire attention avec le voisinage, faire attention avec le mur qui sépare entre les voisins, faire attention à différentes notions et critères qui peuvent parfois engendrer ou faire du tort à un autre, etc. Et après, pareil, la Torah te fait la même différence qu'il y a entre les humains. C'est très bien qu'il y ait une différence entre les nations du monde et les peuples juifs, on ne parle pas de racistes. Enfin, les nations du monde ont 7 mitzvot, les 7 lois de Noach. Alors que le peuple juif a 613 commandements. Dans le peuple juif même, la Torah elle-même te fait cette différence. Cohen et Israël, la Torah te fait la différence entre les hommes et les femmes. Et la Torah te dit qu'il y a une différence entre les différentes mitzvot. Et donc, venir être extraterrestre et dire, moi ça m'intéresse, Ichuda et là, l'union d'en haut. Moi j'ai rien à faire avec l'union d'en bas. Moi j'adore Dieu, moi je suis prêt à donner ma vie pour Dieu. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de limite dans le temps, dans l'espace, dans l'heure. Change de planète. Va à la planète Mars, va à Jupiter. Laisse-moi tranquille, t'as rien à faire sur cette planète. Quand la demoiselle a dit, reste les pieds sur terre. Notre devoir, c'est Yichudatata, cette union du bas, qui veut dire faire entrer la divinité et la sainteté dans chaque espace sur terre. Faire entrer la sainteté dans le couple, dans le travail, dans la technologie, dans n'importe quel domaine dans lequel on est en contact. On n'a pas dit qu'il faut l'effacer, mais bien au contraire, montrer comment ça aussi, ce que Dieu a créé, doit être utilisé pour servir Dieu. Et comment on le fait? Par cette notion de Yichudatata, qui veut dire cette union d'en bas, montrer comment même dans le monde d'en bas, les choses les plus limitées, Dieu est aussi présent. Troisième paragraphe. Malgré que Dieu il est plus haut que le temps et l'espace. Comme on l'a dit tout à l'heure, il se trouve aussi ici-bas. Je me tiens que Dieu est ici, mais il est dit par sa royauté. Je me mène que de elle, par elle est créé et descend la divinité dans le temps et dans l'espace. Les zéos, et ça c'est ce qu'on appelle Yichudatata, c'est ce qu'on appelle cette union d'en bas, qui veut dire unir le nom de Dieu dans Adon, qui veut dire comment Dieu est le patron sur terre. Ça veut dire, Shema Oto, va être peut-être voir que l'essence de Dieu a Nikra Bechamin Tzavoch, ou qui est appelé, qui est totalement infini. Malé, Kola, reste pas mâché, il est totalement plein de toute la tabismane, comme dans le temps, dans l'espace. Que Bachama, Yemima, Lobar, et toute l'altitude que puisse, que Dieu est dans le ciel, en haut, et dans la terre, et dans les quatre coins du monde. Akol, Malé, tout est plein, meur, en Tzavoch, avec la lumière de Dieu, Bechamin, ma mâché, tellement égal. Kikar, Oba, reste mitachat, comme ça, Dieu est dans la terre, en bas, comme Bachama, comme dans le ciel, Mima, ma mâché. Oh, que un col ou prénat de ma corps pour Dieu, tout est le même espace. Un baptême d'une tsiout qui est totalement effacé. Beur, un tsiout, un chouvet, cette lumière de Dieu qui est infinie. Un mit la bêche, beau, qui s'habille en lui, à l'aider, mais d'être malchouto, pas sans royauté. Un mûchet d'être beau et de barrière qui est totalement uni avec Dieu. Seulement. Rakshé, midat malchouto, que la manière comment Dieu règne sur terre. Him midat à tsimtsum va est, c'est sa manière de pouvoir être limité et voilé. L'instir, un tsiout, ou de voiler, de cacher la lumière infinie de Dieu, que nous, on ne va pas la ressentir, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Pourquoi Dieu fait ça? Que dès chez l'œil de Batlou, Azman, Vamakom, Totem le Gomre, parce que Dieu ne cherche pas à annuler, à effacer totalement le temps et l'espace de leur existence. Parce qu'ils sont pour plus faire ce que Dieu demande de nous. Veloy Yushum Zman, Pshum Prina Zman, Vamakom, Mtsut, il n'y aura plus de temps et d'espace concret à filo l'intertenir, mais pour le monde d'en bas. Donc c'est pour ça que Dieu se voile. C'est pour ça qu'il ne peut pas exister sur terre, il ne peut pas éclairer sur terre avec toute sa capacité, il est obligé d'éclairer par le nom Adon, qui veut dire avec cette union d'en bas, par ça que nous, on peut la comprendre et nous, on peut la mettre en application. Al-Mu'azakan, il était à Berditch, une fois, un des petits-fils du Magid de Mezritch, il lui a demandé la question. Comment tu peux dire, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et juste après tu dis, Ve'ahavta Hashem Elokecha, qui veut dire, quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est un, quand on dit Echad, à quoi on doit penser qu'on est prêt à donner notre vie pour Dieu, de totalement effacer à Dieu. Et après tu dis, Ve'ahavta, et tu aimeras. Si je suis prêt à donner ma vie pour te dire que j'existe pas. J'ai pas ma propre existence. Je suis totalement effacé à la volonté de Dieu. Comment après on peut descendre de tel niveau et dire non, moi j'ai envie maintenant d'aimer. Et la réponse qu'il lui a donnée, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Oui, on doit aspirer au niveau le plus haut. Mais c'est pas parce que tu dois aspirer au niveau le plus haut que tu dois pas descendre terre à terre. Oui, dans la pensée, c'est chacun doit vouloir donner sa vie pour Dieu, faire exactement, être connecté à Dieu H24, 7 jours sur 7, sans distinction. Mais sur terre, pour pouvoir faire ce que Dieu demande, on doit remettre, garder les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on a vu au départ, l'histoire qu'on a commencé avec un chassid, qui quand tu fais une définition d'un chassid, c'est quelqu'un qui a un pied en l'air et un pied sur terre. D'un côté, la tête, elle est dans le ciel. On a vu ça avec Yaakov, qui Yaakov, il était capable d'avoir le rêve avec l'échelle qui touchait le ciel, mais la bout de l'échelle était par terre. Oui, il faut aspirer à savoir quel est le but, pourquoi Dieu a créé le monde, élever chaque chose à la sainteté, élever chaque chose à la divinité, faire en sorte que chaque chose soit au niveau le plus élevé. Comment? Par ça que je fais les choses dans la vie de tous les jours comme Dieu l'attend de moi. Respecter l'ordre de la halakha. Respecter les mitzvot qui sont faits avec des choses matérielles. Et grâce à ça, je fais cet ensemble qu'il y a entre les deux. Et grâce à ça, je fais cette union entre le nom de Dieu et le nom de Adon. Je fais cette union entre les miracles surnaturels et les miracles naturels. Je crée cette union entre les voies au-dessus de la nature et les voies de la nature. Et grâce à ça, on peut comprendre pourquoi la halakha, elle est tellement pointilleuse, avec des tellement de détails que les gens parfois ils te demandent mais qu'est-ce que Dieu a fait de mon assiette et qu'est-ce que Dieu a fait si j'ai fait attention à tel ou tel détail, parce que c'est seulement de cette manière qu'on puisse unir les deux et qu'on puisse joindre les deux bouts et faire en sorte que la lumière et la divinité de Dieu descendent sur cette planète. Ça c'était pour la deuxième partie du cours du chapitre 7. La semaine prochaine on continuera en disant tout ça c'est bien beau dans ce que j'ai appris à ce que je dois faire, mais est-ce que vraiment Dieu en a affaire à ce que je fais? Est-ce que Dieu vraiment il prend en considération tous ces petits actes, ou bien lui il regarde la photo générale? Est-ce que Dieu a vraiment à faire? Est-ce que j'ai fait attention que Shabbat est rentré à 38 et pas à 48? Et est-ce que j'ai fait attention à attendre 5h59 avant de manger de la lait et la viande? Ou bien pour lui il n'y a pas de différence? Est-ce que tu as fait attention? Est-ce que vraiment pour lui c'est important tous ces détails? Est-ce que pour Dieu c'est pas plus important de faire les choses de manière globale? Tout ça on verra si Dieu veut la semaine prochaine en rentrant dans les détails qu'il y a deux bases dans la Emouna. D'un côté la Emouna c'est quoi? D'avoir une émouna globale, Dieu il existe sur terre, Dieu il agit sur la planète, etc. Mais on doit aussi avoir le deuxième composant de la émouna, comme Rambam nous explique, que Dieu il connaît les actions de l'homme, et Dieu il s'intéresse à chaque détail de ce que tu fais. Et c'est pas juste quelque chose de global. Quand c'est quelqu'un qui va dire, l'essentiel, monsieur le docteur, c'est que je suis en bonne santé. Non, c'est pas suffisant d'être essentiel en bonne santé, il te demande de faire une prise de sang. Il y a des dizaines de détails, dans chaque détail, il y a chaque détail qui compte. C'est pas juste suffisant d'être généralement. Généralement, c'est très bien, mais après, il y a des fois des détails, et des détails peuvent causer beaucoup de tort. Et ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Comment Dieu s'intéresse à chaque détail de ce que nous faisons. C'est pas suffisant d'avoir une émouna générale, mais une émouna dans tous les détails. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.